que l'on tâte à nouveau le sol qui est sous nos pieds et qu'on s'assure que ce soit bien celui de la Bible et pas celui d'autres idées, de choses qui peuvent nous venir du monde ou de nous-mêmes. Même si parfois elles peuvent paraître ok ou sympa ou ah ouais ça peut être bien, mais on ne construit pas sa vie ou son église sur autre chose que sur le fondement que Christ a posé. Et c'est une veille que l'on va poursuivre. Mais cela ne veut pas dire que nous avons mis de côté la pratique des dons spirituels. Bien au contraire, bien au contraire. Nous croyons qu'il y a bien plus à vivre, bien plus à expérimenter dans la pratique des dons que ce que nous avons déjà vécu jusqu'ici. Est-ce que vous le croyez ? Notre souci, durant ce temps où on a un peu recentré certaines choses, c'était de rester dans le cadre biblique de la pratique des dons. Et on va juste entrevoir une petite fenêtre ce matin, si on a le temps, on va déjà voir qu'il est énorme ce cadre biblique. Il est énorme ce que la Bible dévoile de ce qui peut être vécu en termes d'expérience spirituelle. Mais, il y a quand même un mais face à la pratique des dons, rester dans le cadre, eh bien je peux vous assurer que ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. On a vite fait de se laisser entraîner par une expérience et que cette expérience nous amène en dehors du cadre de la Bible. Et aujourd'hui, eh bien, il y a de grandes églises de renommée internationale qui, on doit le dire, sont parties dans des déviances qui sont assez importantes et assez inquiétantes au sujet de leur théologie dite charismatique. Et je pense qu'une des raisons à cela, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien, elles ont perdu le contact avec la Bible, avec le cadre que Jésus lui-même fixe au travers de l'Écriture et notamment au travers du Nouveau Testament. Je peux en citer, et je pense que c'est bien qu'on soit au courant de ce qui se vit dans le monde charismatique. Vous avez remarqué que notre désir, hein, l'équipe de responsables, c'est pas que le savoir soit détenu par une équipe d'élite, mais c'est que ensemble, on soit d'un commun accord et qu'on ait les yeux ouverts sur ce que la Bible nous demande et sur ce que nous faisons et pratiquons dans les églises. Et une des pratiques qu'on peut citer, par exemple, c'est une pratique qui consiste à s'allonger sur la tombe de personnes qui sont décédées pour récupérer leur onction. Et ça, on est complètement hors cadre de la Bible. Une autre, c'est l'exercice du don prophétique au cours duquel celui qui parle, parle en racontant ce qu'une personne décédée lui aurait donné. On est aussi complètement en dehors du cadre de ce que la Bible nous donne. Encore autre chose, c'est une pratique qui est née au pays de Galles et qui a trouvé fondement, malheureusement, aux États-Unis, et qui consiste à aller dans des villes ou des villages ou des lieux spéciaux pour aller réveiller les anges. Parce qu'il paraît que les anges se seraient endormis et que c'est comme ça que le réveil allait venir dans le lieu. Voilà. Et il y en a plein d'autres. Et malheureusement, ces pratiques sont assez populaires et prennent influence les pratiques et aussi influence, au final, la théologie derrière. Et la façon, du coup, de considérer l'Écriture et l'appui de la Bible. Et on entend désormais dans le monde charismatique que certains vont dire que par l'Esprit Dieu peut nous révéler plus que ce que la Bible ne le fait déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours. Prêtons oreille à cela. Quoi ? Et ça, c'est de la théologie. Est-ce que ce que je reçois du Seigneur dépasse le cadre de l'Écriture ? Et si j'en suis là, dans ma tête, je vous invite à venir discuter avec les responsables, parce que je pense que c'est une déviance. D'autres vont considérer que le ministère prophétique est l'équivalent aujourd'hui de celui qui a permis d'écrire l'Écriture. Ça veut dire quoi ? Que ce que je prophétise, c'est du 100%. J'ai un téléphone qui est directement branché au Seigneur. Alors, il ne s'appelle pas le rouge, celui-là peut-être. Je ne sais pas comment il l'appelle. Mais certains osent aller jusque-là. Non, le cadre biblique ne dit absolument pas cela. Après une manifestation assez forte de l'esprit dans les années 80, pour ceux qui ont vécu cela, savent de quel endroit je veux parler, certains ont utilisé certains versets pour affirmer que Dieu avait promis une deuxième Pentecôte. Vous savez la Pentecôte qu'on a dans l'Écriture en Actes 2 ? Eh bien, il y en a qui ont dit qu'il y en avait une deuxième et que c'était celle qu'on était en train de vivre à l'époque. D'autres encore commencent à déclarer qu'ils marchent par l'Esprit aujourd'hui, on entend cela, et donc ils n'ont plus besoin de la Bible, puisqu'ils marchent par l'Esprit. En parcourant un peu l'histoire de l'Église, sur 2000 ans de temps, on s'aperçoit que ce n'est pas un phénomène en fait, qui est nouveau. Et il y a plein de mouvements qui, comme ça, entraînés par quelque chose de fort de l'esprit, malheureusement, se sont laissés emporter dans une théologie qui sort du cadre de l'Écriture. On peut citer, par exemple, le mouvement des anabaptistes, qui, au moment de la Réforme au XVIe siècle, eh bien, avaient connu un mouvement d'esprit très très fort et qui se sont mis à déclarer « Eh bien, plus besoin de la Bible, nous recevons directement ce que le Seigneur a à nous dire. » Et vous savez comment ils ont fini ? Eh bien, dans une petite ville en Allemagne, ils ont créé une secte et ils ont fini par dire que tous ceux qui étaient dans cette ville devaient être baptisés ou rebaptisés, puisqu'il y avait le baptême catholique à l'époque. Et si les personnes ne l'acceptaient pas, ils avaient une sommation et une semaine pour partir de la ville. Et s'ils restaient, eh bien, on les tuait. Ils étaient sympas à la base. Hein. C'était des chrétiens comme vous et moi, d'accord ? Qui, oui, ont vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur, mais ont perdu contact avec le cadre de la Bible. C'est un exemple un peu fort, bien sûr, hein, mais c'est pour nous montrer jusqu'où, en fait, cela peut nous amener. Et c'est donc en toute humilité que nous avons cru bon de reposer un fondement biblique solide pour à nouveau nous réencourager, à encourager la communauté à vivre des choses extraordinaire par la vie de l'Esprit. Je le répète, le cadre biblique de la vie dans l'Esprit est déjà extraordinaire. C'est juste waouh quand on s'arrête un peu sur ce qu'ont vécu les personnes. C'est juste extraordinaire et c'est suffisant. D'accord ? C'est suffisant. Pas besoin d'aller chercher ou de vouloir vivre d'autres choses et de vouloir sortir du cadre. Il n'y a pas un peu d'eau qui traîne ? Alors, pardon, c'était juste une petite introduction. On peut prendre 1 Corinthiens 12, ceux qui veulent prendre leur Bible, vous pouvez l'attraper. Et je vais juste répéter ce qui a été dit ce matin, en fait. C'est que la Bible nous encourage à pratiquer les dons. Amen. La Bible nous y encourage fortement, vraiment, très fortement, à pratiquer les dons. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, et ça nous l'a été rappelé ce matin de diverses manières, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour l'autre, pour celui qui est à côté de toi. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant, encore une fois, il insiste Paul, à chacun, il n'en a pas sauté, à chacun, en particulier, comme il veut. Waouh. Waouh. Là, il y a une liste déjà où on a de quoi faire. Mais ce n'est pas la seule liste. Vous avez d'autres listes dans la Bible qui parlent d'énumération des dons. On peut citer par exemple Romains 12. Et le but ce matin, bien sûr, ce n'est pas d'avoir une liste exhaustive des dons spirituels, mais c'est plus de nous éveiller sur ce « à chacun ». À chacun, il est donné. Merci beaucoup, Robert. Tu as le don de m'hydrater, Robert. Merci beaucoup. À chacun, pour l'utilité commune, et au verset 11, c'est Dieu qui les distribue comme il le veut. Amen. Et en fait, dans ces listes de dons, ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne dépend pas de la maturité spirituelle. Ça ne dépend pas des années de fac que tu as fait à étudier la Bible. Dieu les distribue à chacun. Donc toi aussi, je sens qu'il y en a encore qui ont envie de s'esquiver de ce à chacun. Toi aussi, comme il le veut. Comme il le veut. Du coup, quand on vient dans les réunions où on se rassemble, que ce soit le dimanche matin ou dans nos groupes de vie, est-ce qu'on vient comme ça? À chacun, comme il le veut. Est-ce que je m'attends que Dieu va guérir quelqu'un par moi? Est-ce que je m'attends que Dieu va parler à quelqu'un au travers de moi? Est-ce que je m'attends à ce que Dieu va communiquer la foi à travers de moi? Etc, etc. Est-ce que je m'attends à ce que Dieu veut que j'exerce l'hospitalité envers quelqu'un? Est-ce que je m'attends à ce que Dieu me dise, tiens, va manifester de l'amour à cette personne parce qu'aujourd'hui c'est particulier pour elle, etc., etc. Est-ce que je viens dans cette attitude-là? Oui? Ah ben c'est super! L'Église à Corinthe, elle semble en fait être plutôt jeune dans la gestion du péché au milieu d'elle. Et on voit que Paul fait couler beaucoup d'encre pour redresser les choses qui sont de travers. Et il va passer en revue de nombreuses recommandations pastorales, dans les deux épîtres d'ailleurs. Mais c'est une église qui était très dynamique dans l'exercice des dons. Et d'ailleurs, Paul commence au chapitre 1 en disant, au verset 7, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Waouh ! Moi, j'ai envie qu'un jour, notre ministère apostolique nous dise ça. « Je vois qu'il ne vous manque aucun don. » Waouh ! Seigneur ! Parce que la communauté, elle est effervescente dans la pratique des dons. Je disais au groupe de vie l'autre jour, parce qu'on étudiait en ce moment un petit peu autour de la prophétie, que pour moi, une église zélée dans la pratique des dons est une église qui a compris que chacun est là pour apporter quelque chose, pour communiquer un don à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une église, Pierre va être content parce qu'il a fini de présider, où la présidence est vraiment très compliquée. Tout le monde veut prier, tout le monde reçoit des paroles à partager, du moins beaucoup. D'autres veulent communiquer la foi par des témoignages de ce qu'ils vivent, d'autres veulent parler en langue, d'autres vont recevoir l'interprétation, d'autres ont à cœur de prier pour telle ou telle maladie, etc., etc., etc. C'est ça une église zélée. Et je crois que c'est cela à ce que Paul nous encourage. Dans 1 Corinthiens 14, j'ai ma zapette virtuelle, non ? Oui. Il est écrit « Recherchez la charité », c'est l'amour, « Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Et je disais, ça veut dire quoi, aspirer ? C'est ça, aspirer ? Oui ? Et non ? C'est le mot « zéloo ». Ah, ça me parle un peu plus. Ça veut dire être zélé. Quand Paul dit ça, il dit « soyez zélés ». Et ça signifie « brûler d'ardeur, bouillir d'envie, désirer ardemment ». C'est ça que ça veut dire, être zélé. J'avais donné un exemple, être zélé, c'est « j'ai envie !» Pardon, je voyais que vous étiez en train de vous endormir. C'est ça être zélé, hein ? C'est ça, c'est pas moins. Il est là le standard biblique. Il est là. J'ai envie. D'accord ? Et quand j'arrive et que je rencontre mes frères et sœurs, j'ai envie de le bénir. Et pas je vais me cacher dans mon coin parce que je sais pas quoi. D'accord ? Et ce matin, j'aurais aimé qu'on parle un peu des dons prophétiques, mais on en parlera probablement plus à un autre moment. Mais une chose que je peux dire, c'est qu'on m'a posé la question, par exemple, mais est-ce que tout le monde, du coup, doit prophétiser dans une assemblée ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Alors bien sûr, le « je dois », ce n'est pas une réponse biblique. Mais en tout cas, ce qu'on peut répondre à cela, c'est que Paul dit « Moi, j'en ai envie. Moi, je suis zélé pour que toute l'assemblée pratique les dons. Il désire que tous prophétisent. Il en a, il boue d'envie pour que tous prophétisent. » Oui, tu peux changer. Et il y a un but. Pourquoi ? Et j'aime ce verset qui, pour moi, s'applique à tous les dons de la foi. Mais si tous, encore une fois, imaginez combien on est ce matin, regardons-nous. Si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Imaginez, un non-chrétien rentre et tout le monde a une parole pour lui. Il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Waouh ! Waouh ! Le don prophétique est donné pour l'édification du corps, oui, mais l'édification du corps, elle a aussi un but, et ce but, c'est la mission du Seigneur. Appeler à la foi ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alors, pour ne pas mettre des personnes mal à l'aise parmi nous, je vais prendre un exemple qui nous est arrivé avec Marie et Aline quand on est allé visiter l'église de Montpellier, l'église La Source. On a prié pour une dame qui n'était pas au Seigneur. Et chacun, notre tour, on lui a donné des paroles sur sa vie. Et c'était tellement précis et tellement fort qu'à un moment donné, elle a attrapé les mains de quelqu'un, je ne me rappelle plus de qui, et elle a dit « Attendez, attendez, stop ! Qui vous a raconté ma vie ?» C'était juste un moment excellent, excellent. Et je crois qu'on a vécu un petit peu ce que Paul a décrit ici. Pourquoi pratiquons-nous les dons ? Henri nous l'a rappelé aussi ce matin, parce que nous sommes en mission et qu'on a des gens à appeler à la foi. Amen. Ah, pardon. Excusez-moi, hein. La technique quand j'ai perdu mon... Voilà. L'Église, notre communauté, doit être zélée dans la pratique des dons spirituels. Et du coup, au passage, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est bien de le dire, un petit mot pour les présidents des cultes ou des réunions maison, parce que c'est pareil, quelque part. Soyons sympas avec eux. Vous êtes d'accord ? Soyons sympas avec eux. Le rôle de l'Assemblée, elle est de recevoir, d'avoir un ardent désir de déverser les dons. Le rôle du président, eh bien lui, ça va être de réguler tout ça, d'amener de la cohésion et de garder un cap dans une réunion. Donc du coup, ce que j'avais envie de dire, c'est apportons, désirons ardemment déverser ce que Dieu peut nous donner, mais laissons le président présider, diriger, et parfois ça peut et ça va nous frustrer. Et ça va, c'est ok d'être frustré parce qu'on n'aura pas pu peut-être donner ce matin-là ce que Dieu nous a donné, mais ça ne va pas nous empêcher de le partager quand même et d'aller voir un responsable ou celui qui préside pour partager tout ça. Et je disais, on devrait être assailli, d'accord, de la manifestation des dons, et on ne va pas prendre plus de temps que ça ce matin parce que c'est déjà midi, mais je referai un message par rapport à ça pour qu'on puisse un peu entrevoir ce que la Bible nous dévoile dans l'expérience que l'on peut vivre avec le Seigneur, mais c'est juste extraordinaire, extraordinaire. On peut entendre Dieu d'une manière waouh, waouh Seigneur, c'est incroyable. Et il y a plein d'exemples bibliques qui sont très très forts, des visitations du Seigneur, des apparitions, les yeux ouverts, des visions, que ce soit les yeux fermés ou les yeux ouverts, des visitations du Seigneur pendant les rêves, il y a des transportations, il y a tout un arsenal d'expériences spirituelles qu'on peut désirer de vivre au milieu de nous. Je finirai juste peut-être par un verset. 1 Pierre 4, est-ce que je l'ai mis ? Oui. 1 Pierre 4, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Vous êtes d'accord avec Pierre ou pas ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein ? Après, c'est avec lui qu'il faudra voir. Un petit peu avec Jésus, parce qu'il a été inspiré quand même. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Et je finirai par commenter le mot « diverses ». Vous savez qu'est-ce que c'est ce mot en grec ? Ah, je l'ai écrit. C'est « poikilos », bravo. Et en fait, ça veut dire « multicolore ». Qu'est-ce que c'est beau ! Pierre est en train de nous dire « soyez des bons gestionnaires ». de la grâce de Dieu qui est multicolore. Waouh. Waouh. Non, moi, je ne vais pas apporter ma petite parole prophétique parce que, voilà, c'est juste un mot, c'est tout petit. C'est pas assez. Hein ? C'est pas assez. Eh bien, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la grâce de Dieu, elle est multicolore. Et parfois, toi, tu auras juste à mettre le petit point dans le tableau qui va faire que « Waouh, Seigneur, c'est juste incroyable ce que tu es en train de faire au milieu de notre assemblée. » Amen. Alors, on va terminer en priant. On peut peut-être se mettre par deux et on prie les uns pour les autres. Et après, je rends la présidence à Pierre. Sauf si, parce qu'elle nous a quelque part fait prendre un peu plus conscience de qui tu es, de ce que tu fais, de ta présence à nos côtés. Et Seigneur, merci pour ta parole qui est ce cadeau extraordinaire sur lequel nous voulons marcher, Seigneur. Nous voulons avancer et construire sur ta parole, Seigneur, que ce soit nos vies, que ce soit notre assemblée, Seigneur, que ce soit tout ce que nous faisons. Et Seigneur, on veut te dire merci pour tous les dons, Seigneur, que tu déverses au milieu de l'assemblée, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions particulièrement pour la personne avec laquelle je suis en train de prier. Que l'aspect multicolore de ta grâce, Seigneur, soit déversé maintenant en elle. Déverse, Seigneur, ta grâce abondamment, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur cette assemblée. Et que par chacun d'entre nous, Seigneur, il se produise des manifestations du Saint-Esprit extraordinaires, Seigneur. Seigneur, nous avons soif de prophétie, Seigneur. Nous avons faim de guérison, Seigneur. Nous sommes bouillants, Seigneur, de voir la foi se manifester au milieu de nous, Seigneur. Nous avons un ardent, Seigneur, désir de voir des miracles, Seigneur, réalisés au milieu de nous, Seigneur. Que les langues, Seigneur, puissent être déliées. Que tous les dons, Seigneur, que tu décris dans ta parole, on en soit équipé, Seigneur. Parce que, Seigneur, on sait que nous savons que nous sommes dans ta mission. Nous savons que nous sommes réunis, assemblés pour amener la foi dans les nations, Seigneur. Et humblement, Seigneur, nous sommes conscients que nous avons besoin d'être équipés de tous les dons que tu as prévus pour cette assemblée, Seigneur. Alors, Seigneur, surprends-nous, Seigneur. Surprends-nous, semaine après semaine, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de vivre des choses encore plus extraordinaires que ce qu'on a vécu jusque-là, Seigneur. Multiplie les guérisons au milieu de nous, Seigneur. Multiplie la foi, Seigneur, au milieu de nous. Multiplie les paroles prophétiques au milieu de nous, Seigneur. Amen.